Non, pas trop de bruit.
Oui, mais il y a des gens qui doivent travailler aussi. Tu travailles, je travaille.
Pas de bruit.
Chacun son job.
Mais ça résonne dans ma tête.
Toujours perdu dans le chef.
Non, non, c'est pas du tout vrai. Quand ça t'arrivera, tu verras, tu comprendras. Attends, quelques années.
Pas faire du pain sans faire un tout petit peu de progrès. C'est ce que je peux.
Bonjour Annette. Bonjour Annette et bonjour à tous ceux qui vont suivre Annette. Parce que c'est toujours Annette ou Muriel qui sont les premières. Muriel de Toulouse, c'est bien loin d'Annette. Hein? 1 000 km au moins. Mais voilà, tout près du Seigneur, il n'y a pas de 1 000 km. Il n'y a même pas de centimètre. Nous sommes en Christ, au nom de Jésus et dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Alors, je voudrais vous demander pardon pour mercredi. Nous sommes vendredi, n'est-ce pas? Nous sommes vendredi et c'est la prédication numéro. Nous sommes le 6. Le 6. Eh bien, je ne sais même pas vous le dire. J'ai pas mis de numéro. Je vais vous le dire tout de suite pour que ça puisse servir au moins à notre cher Jean-Christophe qui nous aide à mettre ça sur le site. Donc, nous étions lundi à la 52 et nous étions mercredi à la 53. Donc aujourd'hui, nous sommes à la prédication 54, message 54 de l'année 2022. Voilà. Comme notre chère Annette me l'avait demandé. Prédication 54 aujourd'hui. Bon, je dois vous demander pardon parce que j'ai l'autre jour, lorsque j'ai terminé la prédication de mercredi, donc à 53, il y a quelqu'un qui a hurlé dehors, qui m'a appelé. Qui m'a appelé, qui hurlait, qui criait encore plus fort pour que je réagisse. Et d'autre part, il y avait le téléphone qui sonnait. Et donc, quand j'ai voulu terminer le message, normalement, je marque ne jamais supprimer. Eh bien, figurez-vous, mon doigt a été trop vite et ça a été supprimé. Donc, la prédication de mercredi a été supprimée. Je le regrette bien. Si quelqu'un l'a enregistré, eh bien, qu'il le fasse savoir. Si quelqu'un l'a mis en réserve, qu'il le fasse savoir pour que Jean-Christophe puisse en disposer et le mettre sur le site. Et puis qu'on puisse le remettre sur Facebook éventuellement, parce que beaucoup de personnes n'écoutent pas au moment du message, mais écoutent à un autre moment. Surtout qu'il y a des décalages horaires avec différentes personnes, n'est-ce pas? Différents pays. Alors, ça c'était ce que je voulais dire. Je vous demande je vous prie de m'excuser. Hein, c'était une gaffe, mais vous savez, quand on tempeste alentour de vous, de tous côtés, ça arrive à mon âge, ça y est, on dérape. J'ai pensé à quelque chose aujourd'hui. C'est quelque chose auquel je suis sensible. Je suis très sensible au regard des personnes. Je suis très sensible au regard, la façon dont les personnes regardent et la façon dont elles me regardent et dont elles regardent les autres et dont elles se laissent regarder. Tout ça, c'est quelque chose de très important, le regard. Le regard n'est pas quelque chose d'anodin. Il y a quelque chose dans le regard qui vient de l'âme. Et donc, quand je lis Matthieu, chapitre 6, verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 22, Matthieu 6, verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, chers amis, parce que il y a dans le regard, il y a des ténèbres ou il y a la lumière. Il y a Christ ou il y a le monde des ténèbres. Dans le regard. Donc, je répète, Matthieu 6, versets 21 à 22. C'est très important de savoir que le regard, soit il est habité de ténèbres, soit il est habité de la lumière. Et ce qui me frappe de plus en plus en avançant, quand je vais à droite et gauche, je rencontre des chrétiens et tout, quand je rentre chez moi, je dis, ben, tel et tel chrétien que j'ai rencontré, il y a de la joie, il y a de la lumière dans son regard, dans son âme. Et puis les autres, non, je vois autre chose qui n'est pas si brillant que ça, mais voilà. Et je me réjouis quand je vois la lumière et la joie dans le regard de quelqu'un qui est chrétien. Et si ce n'est pas un chrétien qui a cette joie et cette lumière, je me dis, il n'est pas loin de Dieu, il cherche quelque chose. Il cherche. Il a certainement un grand besoin. Mais comment s'y prendre, ça c'est différent, il faut prier pour cela. Alors, vous savez que Jésus a quand même dit que il fallait faire attention à la façon dont on regarde, n'est-ce pas? Vous savez qu'il est interdit de pratiquer l'adultère. Mais bon, tout le monde ne pratique pas l'adultère. Il y en a quand même pas mal sur la terre, n'est-ce pas? Mais beaucoup. Mais ce qu'il y a, Dieu le voit, Dieu le sait. Mais il y en a beaucoup aussi, et je pense que je suis dans le lot comme tout le monde, avec les yeux, on a regardé avec convoitise telle ou telle personne. Et c'est lamentable. C'est l'état de notre cœur qui a agi à ce moment-là, un état de cœur faible, qui est peut-être influencé par de quelque chose qui vient des parents, des grands-parents, de mauvaise conduite des parents ou de l'occultisme dans la famille, mais ce qu'il y a qui est aussi influencé d'abord par le péché. Le péché, en quelque sorte, c'est l'appropriation de la vie pour soi-même. Le péché, c'est ça. Tandis que la foi, c'est le respect de la vie que Dieu représente et que Dieu donne à chacun. Et la foi représente le respect de la vie, la réception de la vie et la transmission de la vie. Donc, c'est clair que quand Jésus parle en Matthieu 5, Matthieu 5, au verset 27 à 29, il dit ceci: Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bon, on parle de l'homme qui regarde une femme, mais il y a la femme qui regarde l'homme aussi, hein, c'est pas si. C'est la réalité. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc, après, Jésus parle au verset 30 de la main gauche ou de la main droite, si elle a fait quelque chose, tuer quelqu'un, ou etc. Ben, il y a beaucoup de mauvaises choses. Bon, clairement, clairement, l'œil ne peut pas se permettre de convoiter. C'est-à-dire, derrière l'œil, bien sûr, l'œil, ce n'est qu'un organe. Il y a l'âme, il y a le cœur. Et dans le cœur, il est clair que dans l'âme, il y a soit de la ténèbre, soit de la lumière. Chapitre 6, verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, il est clair que Je vais prendre des images, je vais prendre des exemples, vous expliquer. Je suis parti aujourd'hui à 2h30 vers Longwy pour déposer deux chèques de deux sœurs bienveillantes pour pouvoir aider le plus vite possible le Pakistan, les chrétiens. Pourquoi? Parce que j'y allais pas aujourd'hui après-midi, j'y allais pas demain, je suis en réunion toute la journée à Bertrand Moutier avec un tas d'autres chrétiens. Et en plus, il y a le dimanche, et puis alors, c'est quand? Lundi, donc je vais l'avoir mercredi ou jeudi sur le compte. Donc j'ai fait en sorte de l'avoir assez rapidement pour envoyer cela, il y a 135 enfants qui ont besoin. Et trois maîtresses maintenant, des trois sœurs. Avant, il n'y en avait qu'une qui travaillait, puis une deuxième, et puis maintenant une troisième. Et 135 enfants, c'est beaucoup de boulot, énormément de boulot, parce que c'est des enfants qui vont faire des briques dans la boue avec leurs parents, soit le matin, soit l'après-midi. Donc il y a deux groupes. Deux groupes. Donc il y a un groupe, le groupe qui existe depuis 2 ans passés, 75 enfants, 75, soit vient le matin, soit vient l'après-midi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un groupe, un nouveau groupe de 60 élèves. Donc, imaginez l'effort qu'il faut faire par ces trois jeunes femmes pour enseigner des enfants qui n'ont rien appris jusqu'à ce jour. 60 enfants. Et en 2 ans, il faut leur faire passer un examen que le contrôle du ministère de la culture islamique va superviser. Donc, c'est très important. Cet argent, bon, ça vient de deux très chères sœurs dans la foi en Christ. Merci beaucoup. Nous contribuons aussi, nous-mêmes, de notre salaire pour ces personnes, n'est-ce pas? C'est clair. Mais tout ça, c'est des sacrifices énormes. Bon, maintenant, quand je m'en vais là-bas, je fais 24 km, 22 km pour aller à la poste, à Longwy, en France. Et je reviens. Alors, l'expérience que je vois, c'est que je traverse un village et je vois une jeune dame d'environ peut-être 25 à 30 ans, bien habillée, avec une longue robe. C'est très rare maintenant. Souvent, le tissu semble très cher pour les dames, en haut et en bas. Cette dame était bien habillée, du haut en bas, et avait des beaux cheveux, et en passant, je la regarde parce que je regarde les hommes aussi. J'aime bien de voir les êtres humains, tout comme j'aime bien de regarder tout. Dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Et je vois que cette femme a un regard humble et, si vous voulez, ne fixe pas les hommes. Et regarde plutôt, évite de fixer les hommes. Tout en n'étant pas idiote, hein, ça se voit tout de suite. Elle était d'un port noble. Je repasse, 3/4 d'heure, 50 minutes après, et je vois qu'elle avait été dans le village, sans doute faire une visite à quelqu'un dans une maison, et qu'elle avait repris à la sortie de l'école ses deux enfants, d'environ 11 ans et 8 ans. Et elle avançait sur le trottoir, dans le sens inverse, avec ses deux enfants. Et on voyait du bonheur sur le visage de cette femme d'être avec ses deux enfants. On voyait du bonheur sur le visage des deux enfants d'être avec leur maman. Et toujours cette femme avait un regard modeste, aimant, profond. Et je me suis dit, cette femme mérite le respect de tout le monde. Elle est noble dans son cœur. Et ce qui a... Est-ce qu'un homme peut regarder une telle femme avec des yeux tordus et lui faire du mal? Il n'a pas le droit. Dieu l'interdit. Et je prends un verset de Job, Job au chapitre 31, verset 1, pour vous dire à quel point il y a 42 siècles. Ce verset a 42 siècles, 21 siècles avant Jésus, à l'époque d'Abraham. Job 31, verset 1. « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? » La ruine n'est-elle pas pour les méchants et pour le malheur, pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Alors, vous voyez, je continue les versets. Vous voyez, la conscience de Job, elle est extrêmement intègre. Elle est en référence à Dieu, d'une manière vivante et constante. Et quand il regarde une personne, il la regarde avec noblesse, avec dignité. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, donc si j'ai commis l'adultère avec mes yeux envers une femme, c'est ça que ça veut dire. Si je reprends les enseignements de Jésus dans Matthieu 5 et Matthieu 6, que Dieu me pèse dans des balances justes. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, que mes rejetons soient déracinés. Regardez bien à quel point Job est exigeant envers lui-même. Verset 9. « Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, que d'autres la déshonorent. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, il ne mérite pas d'avoir une épouse si il a été séduit par une autre femme. Et c'est donc un homme qui a une conscience élevée, une conscience noble. Et quand j'ai vu cette dame la première fois, et puis la deuxième fois, je me dis, ça c'est une personne selon Job chapitre 31. Chers amis, aujourd'hui, il faut prier pour que toutes les chrétiennes soient comme ça. Nous devons avoir un regard pur, aimant. Bon, il arrive que, je vais vous donner un autre cas, mon petit cœur, un autre cas, sur le même chemin, en allant à Longwy, dans la localité suivante, je suis déjà en France, je traverse une localité et je vois sur le trottoir une jeune dame, aussi en longue robe, et avec une poussette et un enfant, qui parle avec des papis et des mamies et des gens de différents âges, et puis ça a l'air d'être une bonne conversation, je dirais, cordiale. Quand je reviens, je vois cette jeune dame avec son enfant, 100 mètres plus loin, qui est aussi en train de parler avec d'autres personnes. Je me suis dit ceci, en tant que chrétien, en tant que pasteur, elle fait du bien aux autres parce qu'elle s'arrête, elle les écoute, elle les regarde. Elle avait un bon visage, un bon regard. Et rien n'était faux dans son regard, dans son attitude envers les personnes. Et donc, les personnes qu'elle a vues sur le trottoir, avec qui elle a parlé, elle leur a fait du bien. Parce que son cœur aime la lumière, que son cœur aime la vérité. Et dans ses propos, en promenant sa petite poussette avec son enfant, en étant habillée de manière élégante, belle, mais aucune provocation, rien qui inspire le vice, si vous voulez, cette femme apporte un bien dans la rue, un bien public, une âme qui est propre, une âme qui veut être propre, fait du bien à toute la société. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, chers amis, maintenant, je voudrais parler d'autre chose. Notre fille Bénédicte a un petit mouton depuis un mois qu'on lui a donné, que la maman ne voulait plus allaiter, etc. Elle lui donne le biberon toutes les 2-3 heures, il a dormi dans sa chambre, etc. Et voilà, il est dans ses bras comme un bébé, et puis il penche sa tête, il met son museau dans son cou, comme un bébé le ferait, et puis il lui tend des yeux d'amour. Il lui tend des yeux d'amour. Voilà une chose. Et quand on le remet dans la prairie pour manger de l'herbe la journée, dès qu'il nous voit, il chante, il lance des cris d'amour. Il voudrait être avec nous. Dès que Bénédicte a fini ses activités, elle ouvre la barrière, il la suit partout. Et elle le prend dans les bras. Et Bénédicte est heureuse. Et le mouton est heureux. L'échange des regards et l'échange des voix apporte un bonheur fou à Bénédicte et à ce mouton. J'ai connu cela dans la ferme, moi, avec les vaches, avec les poules, les lapins, tout. J'ai connu une vieille dame qui avait très âgée, plus de 90 ans, 90 ans, dans sa petite ferme isolée. Elle avait une poule rouge, de 22 ans qui était sur la table. Et quand la dame mangeait dans son assiette et tout ça, la poule attendait et la regardait avec un œil d'amour. Et la dame regardait la poule avec un œil d'amour. Quand cette poule est morte, cette dame a beaucoup souffert. Mais c'est une femme qui avait la foi. Donc, elle l'a reportée toujours, tous les jours. Ce qu'elle échangeait avec cette poule, elle l'a reportée au Seigneur. Et quand la poule est partie, elle reportait, elle rendait grâce au Seigneur d'avoir eu cette poule 22 ans. Donc, le regard peut se réjouir du moment qu'il n'accapare pas la poule. Le regard peut se réjouir du mouton du moment qu'il n'accapare pas le mouton. On peut se réjouir d'avoir une belle maison, une belle pelouse, du moment qu'on ne l'accapare pas, qu'on ne l'idolâtre pas, et qu'on rend grâce à Dieu pour cette pelouse ou pour ces fleurs-là. Quand on n'accapare pas les choses en disant « c'est à moi », etc., mais qu'on les vit avec bonheur et avec paix, en disant « merci au Seigneur », on s'élève, on avance, on progresse, on peut rendre grâce à Dieu. Et ce qu'il y a, il est clair que quand vous vous levez, ou dans la journée, vous allez devant un miroir et vous vous regardez. Il y a 36 façons de se voir. Ouh là que je suis extra, ouh là là que je suis bien tapé, etc. Ou alors, ouh que je suis moche, ouh là 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 là, quelle pitié de se voir dans la glace. Ou alors, merci Seigneur. Eh bien, lisons le psaume 139. 139. Pourquoi ne pas dire merci au Seigneur quand on est devant le miroir, quand on a 20 ans, quand on a 15 ans, quand on a 8 ans, quand on a 6 ans, ou quand on a 56 ans, 66, 76, 96? Pourquoi ne pas se mettre dans l'attitude de la paix, de la joie, de la reconnaissance? C'est beaucoup mieux la qualité de l'âme, la lumière de l'âme, fait du bien à la personne qui la porte. Et la lumière de l'âme, c'est un choix. C'est la personne qui choisit d'être dans la lumière de l'âme. On ne peut pas dire la vie est moche tous les jours. Ça peut arriver de temps en temps qu'on souffre et qu'on a un ras-le-bol. Quand on voit, par exemple, Jonas, il maudit le jour où il est né, Jérémie, etc. Mais, attention, ils ont toujours servi le Seigneur avec joie et ils sont retournés dans de bons sentiments envers Dieu. Alors, psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Vous voyez à quel point cet homme, David, pendant longtemps, il était méprisé par son père, qui l'appelait un pou, une puce. Hein? Et David se discréditait lui-même à ses propres yeux. Puis à un moment donné, il y a une guérison de Dieu, une guérison intérieure, pour que son cœur soit rempli de lumière. La lumière, pour moi, c'est d'abord de s'aimer, oui, de s'aimer, parce que Dieu nous aime. La deuxième chose, c'est de rendre grâce à Dieu. Et plus on rend grâce à Dieu, plus on apprend à aimer Dieu, plus on apprend à s'aimer soi-même. C'est en boucle, tout compte fait. Quand on vit dans l'esprit de Dieu, c'est en boucle. On s'enrichit tout le temps. Bien sûr, nous sommes faibles et parfois certains jours, on n'est pas brillant. Mais bon, on se relève vite parce qu'on sait que les ténèbres ne nous intéressent pas. Elles ne nous apportent pas la paix, ne nous apportent pas la joie. Les ténèbres ne nous apportent pas le bonheur. Donc, je lis le psaume 139, j'en suis au verset 3. « Tu sais, quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Donc, quand quelque chose va être dit dans 5 minutes, dans 15 minutes, dans 15 jours, Dieu la connaît déjà. Dieu le connaît déjà. Dieu sait tout. Il voit tout. Alors, voici au verset 5, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Eh bien, quand je vois le petit mouton dans les bras de Bénédicte, c'est vraiment ça. Bon, maintenant, il y a une autre chose que je vais vous dire. Ici, dans notre living, dans notre salon où on mange, parfois on ouvre la porte-fenêtre, ou même que la fenêtre est fermée, ma femme se réjouit toujours de voir sur un grand sapin chez une voisine, tout au-dessus, un sapin qui fait au moins 20 mètres de haut, 20 ou 25 mètres, il y a un merle qui se met juste au-dessus, au sommet, et tous les jours au soir, tous les jours au matin, il chante. Et il ne chante jamais la même chose. Si vous écoutez bien, il a un langage. Alors ma femme a pris l'idée d'aller dans le jardin, de travailler, hein, et fin de journée, généralement, le matin, bon, c'est un peu trop tôt, je pense, mais ce qu'il y a, fin de journée, et alors quand le merle siffle, tout d'un coup, elle siffle. Le merle se tait, il écoute, et puis il fait un autre, il dit autre chose, il fait des autres gammes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la communion a été voulue par Dieu entre les créatures. La communion a été voulue par Dieu entre les créatures, entre les animaux, les plantes et les humains. Si la communion a été voulue par Dieu entre les créatures et l'humain, ce n'est pas pour qu'on idolâtre la créature. C'est pour qu'on ait une communion avec Dieu aussi. La communion avec la vie, les choses simples de la vie, nous invite à la communion réelle avec Dieu. En remerciement. Et plus on ouvre son cœur à cela, quand on sait que Dieu nous entoure par derrière, par devant, qu'il met la main sur nous, qu'il nous tient jusqu'aux dernières minutes, et puis après, quand il élève notre âme quitte le corps, il élève notre âme auprès de lui, eh bien, nous sommes toujours dans sa main. Vous savez bien que dans Jean chapitre 10, Jésus dit que nul ne vous ravira de la main de mon Père. Donc, au verset 6, une science, donc un savoir, une connaissance de Dieu aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Donc, je voulais vous dire ceci, c'est que quand je circule en voiture, que je vois dans la première localité ici, à 5 km, cette dame bien habillée, je la vois à l'aller et au retour avec ses enfants, je vois quelque chose de merveilleux que Dieu a mis là, dans ce village. Une personne intègre, qui mérite sans doute un jour de connaître Dieu. Va-t-elle le connaître? Va-t-elle entendre la parole de Dieu? Vous savez que la foi ne naît que de ce que l'on entend. La foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pourquoi pas distribuer des évangiles dans ce village? Ou en tout cas, m'arrêter le jour qu'elle va chercher ses enfants et donner un évangile aux enfants et à cette femme. Pourquoi pas? Alors, c'est pas parce que je m'appelle Jean, vous, tout le monde, tout chrétien peut le faire, hein. C'est clair, c'est pas par présomption que je vous dis ça. Alors, au verset 7, psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton Saint-Esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» Donc, clairement, David a fait l'expérience que Dieu est amour, et Dieu est présent à sa vie, Dieu est là. Dieu est infiniment présent. Si Dieu est infiniment présent à ma vie à chaque instant, pourquoi est-ce que je ne m'adresse pas à lui tout le temps? Alors mes yeux vont briller d'une grande, un grand amour, une grande joie, et mes yeux ne vont jamais être emportés par la colère, par la méchanceté, par la rancune, la violence. Ou en tout cas, si ça arrive, ça ne va pas durer longtemps. Si la présence de Dieu est très, très active dans ma vie, je ne vais pas rester dans la souillure avec les yeux et regarder les gens de manière vicieuse, sale, souillée. Je vais le regretter, demander pardon et me corriger. Voyez-vous, la communion avec Dieu est le meilleur moment, toujours présent, jour et nuit, le meilleur moment pour être vrai. Il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible et qui n'ont pas cette communion. C'est dommage. On peut avoir la Bible comme une lampe dans laquelle il n'y a pas d'huile. Donc il n'y a pas cette activité spirituelle intérieure profonde avec le Saint-Esprit et il ne s'en dégage pas de lumière. Alors, on a la Bible, on connaît des versets et on devient prétentieux et on se sent supérieur et intouchable. Ce n'est pas ce genre de croyant que veut Dieu. Bon, bien sûr, quelqu'un qui dit « moi je ne veux pas lire la Bible, ça ne m'intéresse pas », c'est quelqu'un qui ne veut pas entendre ce que Dieu veut lui dire. La communion avec Dieu doit être aussi alimentée à sa parole. Quand Bénédicte se promène dans le pré, elle parle, le mouton lui répond et il la suit. Il tourne autour d'elle, il la suit. Elle est au bout du pré, il crie un petit coup, elle lui parle, il vient. La brebis reconnaît la voix de son maître. Et dans Jean chapitre 10, mes brebis connaissent ma voix. Là, nous le voyons de manière pratique tous les jours. Les brebis connaissent ma voix. Donc, si quelqu'un a de l'amour pour Christ, il a de l'amour pour sa parole et il va rechercher ce que Jésus veut lui dire, veut lui enseigner et il va accepter l'enrichissement que Jésus lui donne. Alors, je vais continuer dans le psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton Saint-Esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Impossible, Dieu est présent. Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Alors, le verset 11, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. À certains moments dans notre vie, on est en pétard avec Dieu, ou avec d'autres chrétiens, ou avec l'Église. On est en pétard, mais réellement en pétard. Et à ce moment-là, on ne supporte pas de retourner vers les autres. À ce moment-là, les ténèbres commencent à s'épaissir. Mais si c'est quelqu'un qui a réellement été appris par Dieu, qui a connu l'amour de Dieu, la nuit brillera dans sa nuit, la lumière brillera dans sa nuit. Les ténèbres deviendront lumière. Je suis certain de cela. Dans sa fidélité, Jésus donne toujours sa grâce, même si l'homme parfois la piétine. Continuons. Verset 13. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, donc qui a formé, qui a constitué tout l'organisme, le métabolisme, et donné la conscience, l'âme. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Voilà le verset qui est extrêmement important, le verset 13 et 14 dans le psaume 139. Il faut oser dire cela au Seigneur tous les jours. Même quand on est malade, même quand on vieillit, même quand on a des douleurs, c'est la seule façon de résister pour ne pas tomber dans la dépression, pour ne pas tomber dans l'animosité, la mauvaise humeur, la rancune. La seule façon, c'est de savoir dire à Dieu merci, mais humblement, humblement. Quand je vois cette brebis qui se met dans les bras de Bénédicte et qui met son nez dans son cou et qui la regarde avec des yeux, ce petit agneau mâle, le petit agneau, me fait penser à comment Jésus vivait avec son Père des cieux quand il était sur terre, quand il se retirait dans la montagne, qu'il priait, qu'il écoutait Dieu, son Père, des nuits entières. Et pendant une nuit, il est arrivé que, pendant qu'il priait, Il voyait dans l'obscurité, il n'avait pas de phare-lettre, il n'avait pas de satellite. Il voyait dans la mer, à plusieurs kilomètres de là, il voyait une barque secouée par les flots qui allait couler avec tous ses disciples. Tellement sa proximité avec Dieu était grande, tellement la lumière de son cœur était grande, tellement son amour pour ses disciples était grand, il les a rejoints dans la nuit, sur la tempête. Et je voudrais vous dire, que vous soyez chrétien ou pas, Jésus veut vous rejoindre dans votre nuit, dans votre tempête. Chrétien ou pas, nous avons tous des nuits spirituelles, nous avons tous des tempêtes, des tornades, des tourbillons. Laissez-vous rejoindre par le Seigneur Jésus et acceptez qu'il soit dans votre vie, qu'il revienne. Il a marché sur les eaux pour rejoindre la barque. Et il n'y avait pas de phare, il n'y avait pas de drone, il n'y avait pas de satellite. Il savait où étaient ses disciples dans la mer. Or, la mer est grande, 104 km carrés. L'océan de la vie, l'univers est grand, et Dieu sait où chacun de nous se trouve, dans quelle barque il se trouve, dans quelle situation il se trouve. S'il vous plaît, retournez votre cœur vers le Seigneur, parlez-lui, demandez-lui de revenir vers vous si vous n'avez pas la force de retourner vers lui et dans son chemin. Allons dans le psaume 139, un peu plus loin, verset 15. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Donc la masse informe, ça va en 8 semaines. En 8 semaines, vous avez la tête, vous avez les yeux, vous avez tout, les bras, les mains, tout en mini, en réduction, mais tout est là. Donc, avant 8 semaines, c'est une masse informe. Mais avant 8 semaines, l'individu est complètement composé. Mais l'âme est là. Depuis le moment où les deux graines se sont rencontrées et que n'en donnait plus que un ovule, et puis qui s'est multiplié par deux, toutes les demi-heures, et ça donne au bout de 9 mois des milliards de cellules, ça donne le bébé, il y a une âme qui est donnée. Dieu a donné une âme, et celle-là, elle est toujours la même. Depuis le moment, la première seconde, où les deux cellules se rencontrent et pour donner l'œuf, qui va devenir le potentiel énergétique de l'individu, avec tous ses codes chromosomiques, ses génomes, comme on appelle ça, il est clairement qu'il n'y a pas que la cellule, il y a l'âme, le jeu profond, l'âme. Et cela, Dieu ne détruit pas ce qu'il a créé. L'âme est toujours sous le regard de Dieu. Même le corps. Dans 1 Corinthiens 7, il est dit clairement que notre corps, comme notre âme, a un grand prix devant Dieu. Parce que notre corps et notre âme ont été rachetés à grand prix par le Seigneur Jésus. Donc, ne négligeons pas la vie de l'âme et la vie du corps. Respectons le cadeau de Dieu de tous les jours. Alors, il est certain que une conscience positive, une conscience vraiment positive, peut être heureuse, malgré parfois des grandes épreuves. Une conscience positive comme ça peut être confiante en Dieu. Ça n'a rien à voir avec les énergies positives que l'on prêche dans le New Age, dans des tas de courants modernes. Les énergies positives ne se passent jamais de Dieu. Les énergies positives viennent du Saint-Esprit. La vie spirituelle vient de Dieu. Sans l'Esprit, nous sommes morts. Nous sommes séparés de Dieu et c'est comme un rameau, un sarment d'une vigne qui est séparé du cep, qui est coupé. Si la sève n'arrive pas, le sarment meurt, sèche. Chers amis, la vie spirituelle, la vie positive est en Christ. Mais les énergies positives dans tous les courants moderne d'aujourd'hui, déjà ancien, parce que il y avait déjà ça dans l'Antiquité, les énergies positives c'est encore une blague du diable, une en plus. Alors, au verset 17, psaume 139, verset 17, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable, je m'éveille et je suis encore avec toi. » Les pensées de Dieu. Ça veut dire que, ici, David reconnaît l'infinie intelligence divine. Nous sommes trop attentifs à notre intelligence, à nos réflexions, à nos capacités de réflexion. Nous nous attardons trop à ce que nous avons appris, à ce que nous savons et ce que nous prétendons savoir. Nous sommes un grain de sable à côté de l'Everest. Nous sommes une goutte d'eau à côté des océans. L'infinie intelligence de Dieu est bien une chose plus sérieuse que notre petite goutte d'eau, que notre petit grain de sable. Donc, ces versets nous invitent à une grande humilité, à une grande sagesse, à une grande retenue dans nos mots, dans nos pensées, dans nos attitudes. Au verset 18, « Si je les compte, donc les pensées de Dieu, elles sont plus nombreuses que les grains de sable, je m'éveille et je suis encore avec toi. » Donc, le sentiment est en plus que ça, l'expérience que Dieu est avec Job, l'expérience que Dieu est dans sa vie est formidable. Ici, pour David, elle est formidable. Cette expérience de David, elle est formidable. C'est une vie avec Dieu. Alors, je viens de déraper un peu, mais je voudrais prendre Job et vous montrer que Job, oui, David c'est 1000 ans avant Jésus, Job c'est 21 siècles avant Jésus. Encore 1100 ans avant David. Qu'est-ce qu'il est dit dans Job au chapitre 42 ? Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, mes chers amis. » Il faut en arriver là. Ça, c'est réellement la bonne position spirituelle. Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ça, c'est Dieu qui parle. Premier verset de chapitre 42, c'est Job. Mais, le verset 3, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est Dieu qui dit ça. À Job. Et pour nous aussi, évidemment, puisque c'est écrit pour nous. Alors, Job répond, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Ça veut dire, « Je n'ai pas d'intelligence pour comprendre. » Seigneur. Alors, j'ai parlé sans comprendre de tout ça, de merveilles qui me dépassent. Alors, Dieu dit ceci au verset 4, « Écoute-moi et je parlerai. » Qui est fait Job, il répond ceci, je t'interrogerai. Voilà ce que dit Job, et tu m'instruiras. Mes chers amis, nous sommes toujours dans l'interrogation, toute notre vie. Nous sommes toujours en quête de la lumière et de la vérité. Nous sommes toujours en quête de ce qu'est Dieu, de ce qu'il veut nous dire, de ce qu'il pense, de ce qu'il a décidé pour nous, de ce qu'il ne veut pas aussi. Et... je t'interrogerai, c'est normal de s'adresser à Dieu pour le savoir. C'est l'attitude la plus honnête. Et il y a une certitude, une grande confiance, tu m'instruiras. Tu m'instruiras. Ça, c'est la confiance du croyant. Mais ce croyant-là ne va pas dire, je sais tout. Alors là, c'est foutu. Il a déjà pris la place de Dieu. S'il fait ça. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. C'est beau. Mon oreille avait entendu parler de toi. Donc, je sais parmi vous, certains ont entendu parler de Dieu. Souvent, ou peu, peu importe, parce qu'il y a beaucoup de personnes très différentes à l'écoute. Mon oreille avait entendu parler de toi, donc de Dieu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Que veut dire Job? Dans mon cœur, j'ai l'expérience de ta présence. Je sais que tu es vivant. Je sais que quand je t'écoute, que tu m'instruis, je fais l'expérience de ta personne, de ta sainteté, de ton intelligence. Ce n'est plus moi seulement qui vis, c'est toi qui vis en moi. Alors, vous avez ça dans Galates, chapitre 2, verset 22, Paul dit ceci. J'ai été crucifié en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quand même formidable. C'est formidable. Donc, Job dit, au chapitre 42, verset 5, « Maintenant, mon œil t'a vu. J'ai une expérience intime et profonde de ta personne. » Et je serai toujours à ton écoute, à ton école. Je serai toujours la petite brebis derrière toi, divin berger. Alors voici encore ce que dit Job au chapitre 42, verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Pourquoi? Ben parce que on déconne tous. On dit des choses, on pense des choses, on jure des choses, on les prétend, et puis on se rend compte que c'est la catastrophe. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alors, je me condamne, c'est-à-dire, je regrette sincèrement cela et je m'engage à ne plus le refaire. Je ne veux plus reprendre tel et tel comportement. Je ne veux plus reprendre telle et telle parole, telle et telle pensée ou tel et tel écrit. Je me repens, c'est-à-dire, je change, je décide de changer devant toi, Seigneur. Alors, il est clair, chers amis, que dans le reste du texte du chapitre 42, vous voyez qu'il y a comme une forme de résurrection. Job se voit gratifié du retour de ses enfants, de ses troupeaux, de tout. C'est la richesse du royaume de Dieu qui est dessinée derrière ces versets-là à la fin du chapitre 42. Le royaume de Dieu sera un royaume de paix, de bonheur, de bénédiction. Et c'est clair que Job a tout cela dans son cœur et dans son âme et dans sa foi. Voilà donc, je reprends les versets. Chapitre Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, ça peut être l'inverse, hein, un homme qui regarde une femme qui regarde un homme. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, donc en enfer. Jésus ne souhaite pas qu'on se crève les yeux, n'est-ce pas, et qu'on arrache un œil. Mais Jésus est radical. Il veut dire, vous ne pouvez pas utiliser votre œil dans un mauvais sens, un mauvais usage, si vous voulez aller au paradis. Si vous lui... Viens, viens, rentre. Viens. Il y a la petite qui veut venir. Hein. Angelina? Alors, il faut savoir que si nous utilisons nos yeux avec probité, avec intégrité, quand on rencontre des autres, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Parlons de la langue. Si je sors des insanités sur quelqu'un, des méchancetés, des choses vulgaires sur quelqu'un, que je sois athée ou croyant, que je vienne au culte, ou que j'aille à la messe chez les catholiques, ou à la mosquée, ou que je sois athée, ça ne plaira jamais à Dieu. Dans tous les cas, ça ne plaira jamais à Dieu. Notre langue n'a jamais été donnée pour cela. Jamais. Et donc, nous pouvons prendre l'épître de Jacques, et vous allez voir à quel point c'était quelque chose, c'était à la base de la vie de, je dirais, de la première église, puisque Jacques est le responsable de la première église. Donc la fondation du christianisme se fait sur des comportements purifiés. Purifiés comment? Bien sûr par la grâce, le don de Dieu, l'amour de Dieu, son intelligence, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, mais aussi pour notre adhésion. Par notre repentance, par notre engagement délibéré pour la vérité et pour Dieu. Alors, Nous allons regarder dans chapitre 3. Toute l'épître de Jacques est très concrète, hein, n'est-ce pas? Chapitre 3 de Jacques. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Comme les pasteurs enseignent, hein. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Eh oui. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous péchons. Nous écartons de Dieu. Nous disons des choses qu'il ne faudrait pas dire. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Je n'y suis pas arrivé. Je vous le dis franchement. Et je demande pardon quand ma langue n'a pas été tenue en bride. Eh oui. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, donc cette ferraille qui traverse, qui est reliée après avec des cordes, hein, pour tirer dessus, pour faire tourner à droite ou à gauche, ou l'arrêter ou le faire démarrer, si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier, alors qu'un cheval a un corps beaucoup plus important que le nôtre. Nous avons donc un pouvoir sur un cheval rien qu'avec le mors. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Le gouvernail est petit, le bateau est grand, et pourtant c'est le gouvernail qui assure la bonne route, la bonne flottaison, la bonne marche du bateau. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Vous savez bien qu'au sud de la France, au Portugal, en Espagne, en Californie, dans beaucoup de pays, il disparaît 35 000 km² tous les ans de forêt par le feu. Et il ne faut pas grand-chose pour l'allumer. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité, donc c'est un péché commis volontairement. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par l'enfer, la géhenne. La langue peut souiller tout le corps, mais sachez bien tout à l'heure dans Matthieu, c'était l'œil qui pouvait souiller tout le corps et toute l'âme. Donc, il y a des organes en nous qui sont extrêmement difficiles à gérer et qu'il faut faire attention, il faut faire gaffe. L'œil, la main, la langue, l'odorat, il y a beaucoup de choses. Les sens sont trompeurs. Ils doivent être sanctifiés. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, donc mettant le feu comme dans une forêt, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, et aucune femme non plus. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. La langue est pleine d'un venin mortel, un venin comme les serpents. Le serpent, l'image de Satan. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça, c'est très important. Si je veux annoncer l'évangile à 50 Chinois, ou 200 Chinois, c'est mon cas parce que c'est sur le site. Mais j'ai quelqu'un dans mes fréquentations, un Chinois, je l'injurie, je le méprise. Je lui dis des gros mots, des mots d'oiseau. Est-ce que je peux évangéliser les autres? Est-ce que je suis digne d'apporter le message évangile aux autres? Sur le site, je vois bien, moi, il y a beaucoup de monde qui vient de Chine, qui vient de Russie, d'Ukraine, etc., des pays musulmans, sur le site de l'Église. Bon, imaginons, nous voulons évangéliser les Ukrainiens, mais le premier Ukrainien que je vois, ou le deuxième, ou le troisième, je l'incendie. C'est la preuve que mon cœur n'est pas prêt à aimer tous les Ukrainiens. J'ai déjà fait une exception, j'en ferai encore d'autres. Si je veux évangéliser quelqu'un, par exemple, qui est portugais, une femme ou un homme, ou des portugais, mais je m'en prends à un portugais et je le couvre de vilains mots, d'un rejet magistral, suis-je à même de parler à tous les portugais? C'est pour cela que nous devons prendre comme exemple Jésus. Jésus est le seul qui n'a pas une langue souillée. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Dans sa bouche, il n'y a que des choses de l'esprit. Et donc, c'est le meilleur pour évangéliser. Mais nous, tant que nous maudissons quelqu'un, tant que nous avons dit du mal sur quelqu'un, nous ne sommes pas en mesure de servir le Seigneur dans le même ministère que lui. Un chrétien doit absolument être pur dans son esprit, dans sa langue et dans ses yeux pour servir le Seigneur dans l'évangélisation. C'est extrême. Or, l'évangélisation concerne tous les chrétiens. On ne se met pas au travail du Seigneur en étant couvert de boue. Alors, je vais continuer à lire dans Jacques, chapitre 3. La langue, verset 8, « Aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Donc le problème était grave dans la première communauté chrétienne. Et il existe aujourd'hui. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau salée? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre donc ses actions, ses œuvres, par une bonne conduite, avec la douceur et la sagesse. Douceur et sagesse semblent être l'indication d'un cœur qui est dans la lumière. Douceur et sagesse semblent être les caractéristiques d'un cœur qui peut évangéliser, qui peut servir Dieu, qui peut témoigner, apporter la personne de Christ. Parce que Jésus a dit lui-même, « Je suis doux et humble de cœur. » Donc si quelqu'un a en lui une sagesse, une arrogance, même qu'il a du savoir biblique, il n'a pas cette sagesse pour faire l'œuvre de Christ dans ce monde. Cette sagesse, je relis, « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, contre Jésus. » Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, de Dieu, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Là où il y a un zèle amer, je veux faire ci, je veux faire ça, etc., qu'on soit d'accord avec moi ou pas, il y a un zèle amer, un esprit de dispute, là où il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses, ça vient. C'est terrestre, c'est charnel, c'est diabolique. Mais, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Sans duplicité, sans être double, sans hypocrisie. Le fruit de la justice, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu et de la sainteté de Dieu en nous, est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ce n'est pas facile aujourd'hui dans une église de trouver un escadron, un bataillon, armé de la même façon, entraîné de la même façon. On trouve dans nos églises, ici en Occident, des gens qui sont armés avec des fusils en bois et des autres avec des mitrailleuses. On a des personnes qui ont l'esprit de douceur, de bonté, la joie de Jésus dans leur cœur, et qui n'ont pas assommer les gens avec des insultes, qui n'ont jamais souillé les autres avec des mots vulgaires, et qui ne se souillent pas en fréquentant des gens vulgaires. Ils ne se souillent pas à les fréquenter en trouvant bien de les fréquenter parce qu'il y a des points communs entre eux. Non, il est clair que dans l'Église, les enfants de Dieu doivent être purs, ils doivent être purifiés, ils doivent être semblables à Jésus. Ils sont revêtus de la tunique de Jésus, des œuvres saintes de Jésus. On ne peut pas avoir une tunique souillée dans une église. Et pourtant, ce n'est pas du légalisme. Tout ce que je dis, ce n'est pas de l'autoritarisme. C'est simplement ce que les apôtres demandaient dans les premières églises, dans les premiers siècles. Parce que déjà, des problèmes graves se posaient. Il y avait des gens complètement ambivalents. Ils utilisaient à la fois les versets et leur gentillesse, et en même temps, leur méchanceté et leur vice. C'est la duplicité. Il y a des gens qui avaient une bonne doctrine et tout, mais qui en même temps considéraient qu'ils pouvaient utiliser ce qui était en dessous de la ceinture à leur guise. Ils avaient le droit d'en faire ce qu'ils veulent. J'en ai connu. Et c'est jamais fini, j'en rencontre. Ça s'appelle les Nicolaïtes. C'est une dissociation entre la vie dans le savoir, et par cela, le savoir, on pense, on est persuadé qu'on est en Christ, mais pour le reste, dans les instincts, on n'a rien de réglé. Ça s'appelle les Nicolaïtes. Et il y a ceux qui vont dans l'occultisme, il y a ceux qui vont dans la très très mauvaise conduite, qui vont dans la pornographie, qui vont dans les dans les rencontres internet ou des rencontres du même homosexuel en tant que chrétien, et qui ne le montrent pas au pasteur, ne le montrent pas à l'église, et puis ils ont une âme dissociée, déchirée. Et ces personnes ne sont pas à même de travailler pour l'Église, et dans l'Église et pour le Seigneur. Il est difficile aujourd'hui de trouver un escadron ou un bataillon bien armé, homogène, bien entraîné et d'un parfait consensus. C'est très difficile, c'est très dur. Ce qui m'a fait dire une fois, un jour, il y a de ça 20 ans, à ma femme, il n'y aura plus de pasteur, c'est pas possible. Je pense que de toute façon, c'est ce qui arrive. Dieu sanctionne les églises d'Occident, il n'y a plus de pasteurs. Et quand je vois que dans les pays musulmans, il y a des personnes qui se lèvent comme pasteurs, comme évangélistes, alors qu'il y a la persécution. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, chers amis, ici, en Occident? Alors, je vais finir mon message comme ceci. Chapitre 4 de Jacques. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Au sein des chrétiens. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Donc c'est pas un esprit ça. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas la paix, la bonne relation avec Dieu, la bonne relation avec les frères et les sœurs. Parce que vous ne demandez pas la véritable repentance, la véritable conversion, purification de vos péchés. Rappelez-vous la deuxième épître de Pierre au chapitre 2. Ils ont mis en oubli la purification de leurs péchés, leurs anciens péchés. Et donc, c'est déjà au début du christianisme, ce problème est inhérent à la vie de la chrétienté. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques, chapitre 4, verset 3. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mais le monde, c'est les autres ou c'est moi? Avec mon je. Je pense que c'est d'abord moi et mon je. Le monde, c'est d'abord là, quand je vis sans l'Esprit de Christ, sans la conversion à la véritable repentance. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira l'un de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil. Il vaut mieux pleurer convenablement sur ses propres péchés un jour devant le Seigneur, mais clairement. » Et ça peut se reproduire plusieurs fois pour vraiment, vraiment être brisé. Et changer, et vivre alors en Christ, en paix. Et votre joie se changera en tristesse. Fausse joie d'un chrétien artificiel, charnel. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Chers amis, soyez bénis. J'ai pensé, en voyant ces deux femmes, cette première, cette brave maman, très jolie, très humble, très digne, avec des enfants dignes. J'ai pensé, dans l'autre village, à cette maman, avec sa poussette et son bébé, très bien habillée, jolie et digne. Et des gens contents de la rencontrer, et ce bébé, quelle chance il a d'avoir une maman comme ça. Hier soir, je suis parti à la recherche d'un Ukrainien qui était tout seul dans un village. Accueilli dans une maison, les propriétaires ne sont jamais là. Or, il vit dans la cave. Ce brave Ukrainien vit dans ce village tout seul. Et qu'est-ce qu'il peut faire là, en Belgique, si les propriétaires ne sont pas là? Ils sont à 300 km de là, quasiment tout le temps partis. Quelle brave hospitalité, à l'européenne, chers amis. C'est pas normal, ça. L'hospitalité, c'est une fraternité, c'est une convivialité, c'est une existence partagée, dans la différence. Qu'il soit musulman ou pas, qu'il soit bouddhiste ou pas, là, l'hospitalité est une règle de base de toute civilisation qui veut durer, qui veut continuer et porter des fruits. Et en plus, l'hospitalité est une grande vertu que Jésus a toujours demandé à ses disciples. Alors, je cherchais après ce brave homme, j'avais appris qu'il était dans le village de Mussy-la-Ville, et donc je suis parti hier soir, à 8h30 du soir, il fait clair, j'ai pris ma voiture, et je me suis arrêté, j'ai été toqué à des portes, je dis « vous ne connaissez pas un Roumain qui est tout seul ?» et qui vit tout seul, on m'a dit qu'il était tout seul. Et donc pour finir, je suis tombé sur une dame qui vit seule avec ses deux enfants de 12 ans, très brave, très gentille, qui était en pantoufles, qui était déjà avec sa robe de nuit, son peignoir, et qui est ressortie, et qui m'a conduit à 50 ou 80 mètres de là, et qui, on a toqué à la porte, bien sûr on ne l'a pas trouvé, on a été à la cave, on l'a trouvé. Et on a eu de bons contacts avec ce brave Ukrainien qui était tout heureux. Et j'ai utilisé mon smartphone pour le mettre en contact avec un ami, et vous connaissez Alexander, qui est russe et qui parle, et que sa femme est ukrainienne, pour qu'il ait des connaissances, qu'ils puissent parler entre eux et se voir, se rencontrer. D'autre part, il y avait quelque chose de formidable, c'était cette femme et ses deux enfants de 12 ans. C'était réellement une personne avec un cœur vrai. Qu'est-ce qui compte, chers amis? C'est l'étiquette ou c'est la réalité? Ce que Dieu demande, et c'est valable pour tout le monde, c'est d'être vrai. Bas les masques. Bas les masques pour Dieu et vive la vérité. Jésus est venu pour cela. Il a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. »
Je vais chercher Bénédicte.
Bonne soirée. À bientôt, à lundi, 18h. Excusez-moi pour le message de mercredi qui n'a pas été. J'ai fait une maladresse et il n'a pas été conservé. Si quelqu'un l'a, mais qu'il me le retransmette, que je le remette, et que il aille sur le site.